VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 9 mai 2022. Eric Manilakiza
et Yakuba Ouidraogo avec vous. Voici d'abord les sommets.
En RDC, au moins 35 morts dans l'attaque d'une mine d'or en Ituri.
Génocide des Tutsis au Rwanda, le procès d'un ancien préfet s'ouvre à Paris.
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'ouvre lundi à Abidjan.
Et puis la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman clôture à Libreville sa tournée africaine.
Démonstration de force à Moscou pour le 9 mai, une frappe russe tue 60 civils selon Kiev. Le G7 uni face à Moscou.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au moins 48 personnes ont été tuées vendredi après-midi dans des attaques menées par des hommes armés contre trois villages de l'état de Zamfara dans le nord-ouest du Nigeria, ont déclaré dimanche à l'AFP un responsable local et un habitant.
Au Burkina Faso, au moins 12 personnes, 10 supplétifs de l'armée et 2 civils ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Un convoi de vivres escorté par des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, a été la cible d'embuscade sur l'axe d'Ori-Gorgadji. Vendredi, 3 autres VDP sont morts lors d'une autre attaque à Rect-Koulga dans la province du Namantenga, toujours dans le nord du pays.
Et en RDC, au moins 35 personnes ont été tuées hier dimanche par des rebelles du groupe armé coopérative pour le développement du Congo qui ont attaqué une mine d'or artisanale en Ituri dans le nord-est du pays. Claire Morin-Gibourg.
Les Codeco ont tué dans la mine d'or Camp Blanquette. Il y a 29 corps ramenés à la cité de Pluto. 6 corps calcinés ont été enterrés sur place, a témoigné Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu, dans le territoire de Djougou. Ce bilan est provisoire, a-t-il précisé, car les corps d'autres civils tués ont été jetés dans des trous d'orpaillage et plusieurs autres sont portés disparus. La fouille se poursuit, a-t-il indiqué. Le Camp Blanquette est situé dans la forêt, loin de la position militaire la plus proche et à plus de 7 km de la cité de Mungwalu, dans le territoire de Djougou, fief du groupe armé Codeco. L'Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont placés sous état de siège depuis le 6 mai 2021, mais les autorités ne sont pas parvenues à mettre un terme au massacre de civils.
28 ans après le génocide au Rwanda, une quatrième affaire devant la justice française. L'ex-préfet rwandais Laurent Abutibaruta est jugé à partir de lundi devant les assises de Paris pour sa participation présumée à l'extermination des Tutsis en 1994.
Après les procès d'un officier militaire, de 2 bourgmestres et d'un chauffeur, il s'agit du plus haut responsable jamais jugé en France pour des crimes liés au génocide au Rwanda, une des pires tragédies du XXe siècle.
Réfugié dans l'Hexagone depuis 1997, sous contrôle judiciaire, Laurent Abutibaruta doit comparaître pendant plus de 2 mois pour génocide. Complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Il encourt à 78 ans la réclusion criminelle à perpétuité.
Le procès pour homicide et blessure involontaire de la compagnie Yemenia s'ouvre lundi à Paris, près de 13 ans après le crash d'un avion au large des Comores qui avait tué 152 personnes et laissé une unique rescapée âgée de 12 ans. Des dizaines de proches des victimes sont attendus à 13h30 devant le tribunal correctionnel de la capitale et aussi à Marseille, où une partie du procès est retransmise pour ceux nombreux qui résident dans la région.
Abidjan accueille une rencontre de la COP15, la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui s'ouvre ce lundi sur le thème « Terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un monde prospère ». Près de 5000 participants et venus de 196 pays se retrouvent pour évoquer la question de la sauvegarde de l'environnement et jusqu'au 20 mai prochain. Les précisions de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Abidjan, capitale de la COP 15, les travaux de marque ce lundi, le changement climatique, la question de la préservation de l'environnement au cœur de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le président du comité d'organisation pour le compte des Nations Unies, Abou Bamba, donne une idée du contenu des discussions au menu de cette conférence.
Ça va être un débat politique à un très haut niveau et des résolutions seront prises justement pour aller de l'action en ce qui concerne la sécheresse et les corrélations qui existent avec les problèmes de développement socio-économique. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la réunion des plénipotentiaires elle-même. Aussi, il va avoir ce forum des jeunes. Ensuite, il y aura le caucus des femmes. Enfin, on va terminer sur le business forum.
La COP 15 débute aujourd'hui avec le forum des jeunes sur le thème « Les emplois de la terre ». Pendant 11 jours, les participants vont discuter pour apporter des solutions à la désertification et à la sécheresse dans le monde. En Afrique, près de 45% des forêts sont touchées et il y a urgence. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Fin de la tournée africaine de la secrétaire d'État adjointe américaine, Wendy Sherman, était la semaine dernière en Afrique du Sud, en Angola et au Gabon, dans la capitale gabonaise. La diplomate américaine a discuté avec les autorités du pays des sujets ayant trait à la promotion de la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Le compte-rendu de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nzé.
Wendy Sherman a bouclé sa visite à Libreville par un bref détour dans la réserve forestière de l'arboretum Raponda Walker. La diplomate américaine a pu s'imprégner des efforts du Gabon en matière de conservation des forêts pour lutter contre la crise climatique. La secrétaire d'État adjointe américaine a eu des échanges de haut niveau avec les autorités gabonaises. Wendy Sherman.
C'était important, nous avons commencé, nous avons vu le président de la République, nous avons été au ministère de la Défense nationale, ainsi que nous avons été aux affaires étrangères, mais il était critique de voir cette forêt extraordinaire et le rôle que le leadership du Gabon en la matière.
Le gouvernement gabonais s'est dit honoré par l'intérêt que les États-Unis accordent à sa politique de préservation de l'environnement. Stéphane Bonda, ministre délégué aux eaux et forêts du Gabon.
La coopération avec les États-Unis est renforcée par les aides multiples que le gouvernement américain apporte au Gabon, notamment dans la lutte contre toutes les formes d'exploitation illégale, dans la lutte contre toutes les formes de criminalité qui s'exercent dans les pillages de nos ressources naturelles.
En effet, le Gabon et les États-Unis collaborent depuis de nombreuses années pour lutter contre la criminalité transnationale, comme le braconnage, l'exploitation forestière illégale et la pêche illicite. Libreville, Ismaël Obiangzé pour VOA Afrique.
L'Afrique fait face à une crise sans précédent provoquée par l'invasion russe en Ukraine, notamment avec la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant, ont averti vendredi de responsables du PNUD.
L'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février, puis les sanctions imposées dans la foulée à Moscou ont durement touché les pays africains, déjà aux prises avec la pandémie de COVID-19 et de l'urgence climatique.
C'est une crise sans précédent pour le continent, a souligné l'économiste en chef du PNUD Afrique, Raymond Guilpin, en visioconférence depuis New York, a évoqué la flambée de l'inflation, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Sierra Leone.
Et puis le PAM a demandé vendredi la réouverture des ports de la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine afin que les denrées alimentaires produites dans ce pays puissent circuler librement vers le reste du monde, les ports étant bloqués à cause de la guerre. Des millions de tonnes de céréales sont stockées dans des silos à Odessa et dans d'autres ports ukrainiens de la mer Noire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les derniers combattants retranchés à Mariupol ont refusé de se rendre malgré les incessantes frappes russes sur l'est de l'Ukraine, où une soixantaine de personnes étaient portées disparues après le bombardement de leur refuge, tandis que les pays du G7 ont décidé de ne plus importer de pétrole russe. Claire Morin-Gibourg.
À la veille de la commémoration à Moscou de la victoire contre l'Allemagne nazie, les militaires ukrainiens qui résistent toujours dans l'immense aciérie Azovstal ont annoncé qu'ils excluaient de capituler. Dans la région de Lugansk, environ 60 personnes sont portées disparues après qu'une frappe aérienne a complètement soufflé l'école du village de Bigolorivka où elle s'était réfugiée. La première dame des États-Unis, Jill Biden, s'est rendue en Ukraine ce dimanche à l'occasion d'une visite surprise. « Le peuple américain se tient aux côtés du peuple ukrainien », a-t-elle déclaré. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré le président Volodymyr Zelensky à Kiev. Il s'est aussi rendu à Irpin, où l'Ukraine accuse la Russie d'un massacre de civils. Vladimir Poutine devra rendre des comptes, a déclaré M. Trudeau. Le G7 tout entier s'est engagé aujourd'hui à interdire ou à supprimer progressivement les importations de pétrole russe, a pour sa part annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué. Cette décision va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de Vladimir Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre, ont estimé les États-Unis, qui ont d'ores et déjà interdit l'achat d'hydrocarbures russes.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
L'Association des opérateurs aériens du Nigeria a annoncé que les compagnies aériennes nigérianes vont suspendre dès ce lundi et jusqu'à nouvel ordre leurs activités en raison de l'envolée des prix du kérosène. Le prix du kérosène de type Jet A1 est passé de 190 à 700 naira par litre. C'est une hausse soudaine et astronomique sur une courte période, a déclaré l'association. Le ministère de l'Aviation a évoqué des efforts engagés pour apaiser la situation. Le géant minier anglo-américain Mining a inauguré vendredi le plus grand camion de transport à hydrogène du monde dans une de ses mines de platine d'Afrique du Sud. Ce camion alimenté par une batterie à hydrogène de 2 MW peut transporter jusqu'à 290 tonnes de minerais. La compagnie envisage de convertir ou remplacer sa flotte actuelle de camions diesel avec ce système de transport qui pourrait réduire jusqu'à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement capverdien a attribué jeudi au groupe français Vinci par accord direct la gestion des 4 aéroports internationaux et 3 aérodromes du pays. Vinci versera à l'État du Cap-Vert pour une période initiale de 40 ans 80 millions d'euros répartis en 2 tranches. Peu après la signature de l'accord, le pays recevra 35 millions d'euros et lors de la reprise du trafic aérien, le pays recevra 45 millions supplémentaires, a indiqué le ministre des Transports.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée Ongpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour et bonjour à tous.
Football à la une avec la qualification pour la CAN des moins de 20 ans, Égypte 2023.
Oui, et la zone UEFA-B a démarré ses éliminatoires à Niamey au Niger. Dans la poule A, le Niger a été battu d'entrée par la Côte d'Ivoire 1-0. Même score en faveur du Bénin qui affrontait le Togo. Et puis, le Nigeria prend seul la tête du groupe B après avoir battu le Ghana 2-0. Précisons que la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans aura lieu en Égypte du 18 février au 12 mars 2023.
Au niveau des clubs, ont joué les demi-finales aller de la Ligue des Champions, n'est-ce pas Élisée?
Et Al Ahly du Caire ainsi que le Wydad de Casablanca ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la finale. Les Égyptiens, tenants du titre, n'ont laissé aucune chance aux Algériens de l'entente de Sétif corriger 4-0 au Caire, pendant que les Marocains en déplacement du côté de l'Angola se sont imposés 3-1 face au Petro Atlético de Luanda.
En Coupe de la CAF, belle opération aussi pour les Sud-Africains d'Orlando Pirates.
Le club de Soweto en déplacement a assuré en s'imposant 2-0 face aux Libyens d'Al Ahly Tripoli au terme d'un match équilibré. Petit avantage en revanche pour le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui recevrait les Marocains de la Renaissance de Berkane. Les Corbeaux se sont imposés 1-0 grâce à John Bakata au bout du temps additionnel. Les matchs retour de ces deux compétitions se jouent en fin de semaine.
Football en coulisses à présent, la sélection nationale de football du Mali a un nouveau sélectionneur.
Tout à fait. Et c'est Eric Sekou Chell qui a été choisi par la Fédération malienne de football pour remplacer Mohamed Magazouba limogé suite à son échec en huitième de finale de la dernière CAN et en barrage de la Coupe du Monde au Qatar. L'ancien international sera déjà à l'œuvre en juin prochain avec les éliminatoires de la CAN 2023 où les Aigles affronteront le Congo et le Soudan du Sud.
Cyclisme, avant de nous quitter, le Tour international du Bénin s'est achevé à Porto Novo avec une deuxième victoire africaine.
Après le Sud-Africain Jonathan Bouer, c'est au tour du Burkinabé Bachirou Nkiema de remporter une étape. Il s'offre la dernière allant de Sekwe à Porto Novo, longue de 138 km. Nkiema dévance au sprint le Belge Bjorn Dedeker et le Marocain Mounir Machkoun. Trop difficile, cette 17e édition, qui est montée en grade dans le classement UCI, reconnaît le coureur de l'équipe nationale du Burkina Faso. Cette dernière étape n'a rien bouleversé au classement général. C'est l'Allemand Marcel Pejes qui s'adjuge la victoire finale et succède ainsi au Burkinabé Paul Demont.
Et c'est tout pour les sports. Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza. Place au dossier du jour. Au Mali, depuis bientôt 3 mois, les prix ne cessent de grimper malgré les nombreuses annonces faites par les autorités disant maîtriser les prix. C'est le désarroi chez les consommateurs qui constatent un grand décalage entre ce qui est dit et ce qui se passe en réalité. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
S'il y a bien un sujet sur toutes les langues à Bamako depuis quelques mois, c'est bien la cherté de la vie. Le pays vit sous le double effet des lourdes sanctions de la CEDEAO et de la guerre en Ukraine. Et c'est dur pour les populations. Écoutons Alassane Cissé qui travaille dans la communication à Bamako.
Moi, je pense que l'augmentation des prix des produits, l'essence et puis les denrées là, est quelque chose qui émane même de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, c'est-à-dire la fixation des prix au niveau de l'extérieur. Parce qu'on a vu le problème de la Russie et l'Ukraine a un peu joué sur les différents produits qui viennent de ces pays-là.
Pourtant, pour rassurer la population, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a tenu des séries de conférences de presse sur la maîtrise des prix. Mais sur le terrain, les commerçants imposent leurs prix sans être inquiétés, selon Ndé Ombotimbi.
Est-ce que c'est la politique de ne pas revoir la politique des exonérations pour qu'au moins parce qu'ils annoncent des milliards alors que le citoyen lambda ne sent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer la méthode d'exonération? Les services de contrôle, ben, quelque part, on dirait même les services de contrôle, c'est un complice, on ne sent rien. Et ça aussi le problème, en fait. Parce que ça, on annonce des milliards, le gouvernement a cédé, à chaque espace, on nous dit que le gouvernement a cédé des milliards pour au moins atténuer la souffrance des populations. Mais malheureusement, le panier de la ménagère ne sent pas.
Marietto Konaté travaille dans le seul journal 100% féminin du Mali. Elle estime que même les produits de première nécessité qui ne sont pas concernés par les sanctions ne cessent d'augmenter.
Tout est devenu cher. Ce sont les femmes qui ressentent cette cherté. Parce que déjà au marché, tout est cher. La viande qui n'était pas montée, le prix de la viande, 1 kilo en os, va de plus de 2500.
Si une solution n'est pas vite trouvée avec la CEDEAO pour lever les sanctions, cela pourrait entraîner une crise sociale, estime Chiaka Doumbia.
Le gouvernement précédent renonçait à beaucoup de taxes pour permettre à la population de vivre mieux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Apparemment, les autorités maliennes sentent l'urgence d'une solution. Elles ont envoyé une délégation au Togo, conduite par le ministre des Affaires étrangères, pour tenter de trouver un consensus avec la CEDEAO pour lever les sanctions qui pèsent sur le Mali depuis le 9 janvier 2022. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Nigeria, les compagnies aériennes menacent d'interrompre les vols intérieurs à partir de ce lundi pour protester contre la flambée des prix du kérosène. Une perturbation massive pour les voyageurs en raison de l'insécurité sur les routes à travers le pays. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Les opérateurs des compagnies aériennes affirment que le prix du kérosène était passé de 190 à 700 naira le litre, soit de 0,45 dollars à près de 1,70 dollars. La hausse des prix du kérosène est principalement due à l'invasion russe de l'Ukraine qui a débuté en février. Le prix du carburant a grimpé en flèche à travers le monde depuis que la Russie a envahi son voisin, ce qui a déclenché des sanctions de l'Occident contre Moscou, un important exportateur de pétrole et de gaz. Les centrales syndicales des compagnies aériennes nigériennes soutiennent la décision des opérateurs de suspendre leurs opérations. Otieme Aba est le secrétaire général adjoint de l'Union des compagnies aériennes.
our unions stand with the airline operators of Nigeria.
Nos organisations syndicales soutiennent les opérateurs de compagnies aériennes nigérianes. Nous demandons au gouvernement fédéral de rapidement mettre les pendules à l'heure pour sauver notre industrie. Il est important de noter que le pilier de toute industrie aérienne partout dans le monde, ce sont ces compagnies.
Dans les aéroports, il y a eu de nombreuses annulations et retards de vols depuis mars, souvent attribués à une pénurie de kérosène. Le prix des billets a également triplé sur certaines lignes nationales ces dernières semaines. Selon les propriétaires des compagnies aériennes, les passagers au Nigeria payent leurs tarifs en Naira, la monnaie nationale, mais les fournisseurs de carburant doivent être payés en dollars américains, ce qui cause un manque à gagner. Alain Onyema, PDG de la compagnie Airpeace Nigeria et vice-président du syndicat des opérateurs des compagnies.
Tout ce dont nous avons besoin pour nos opérations provient de l'extérieur. Nous sommes obligés de nous procurer des dollars dans un contexte où il est difficile d'obtenir des devises. Si rien n'est fait aussi vite que possible, des compagnies pourraient fermer.
Bien qu'il soit le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria importe la quasi-totalité de son kérosène. En mars dernier, les propriétaires des compagnies aériennes étaient devant les députés pour expliquer les difficultés qu'éprouvent leurs entreprises à cause des pénuries de carburant qui perturbent les horaires de vol intérieurs. Kashim Chetima est l'un des propriétaires des compagnies nigériennes présents à cette rencontre.
Nous courons le risque de mettre en danger notre propre sécurité. Chacun de nous ici emprunte un vol pour voyager. Nous tous, si vous demandez à quelqu'un de voyager à Maïdougouri par la route, il n'ira pas. Donc, pourquoi compromettre notre sécurité? C'est un sérieux problème. Qui importe ce carburant et à quel prix est-il vendu? Quelqu'un doit gérer tout ça.
Une crise confirmée par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Moussa Nuhu, qui était aussi au Parlement fédéral pour faire le point de la situation.
Avec les prix actuels de billets d'avion, les compagnies ne vont pas survivre, donc elles vont fermer parce qu'elles ne pourront pas réunir assez de fonds pour continuer à opérer de manière sécurisée. Je ne parle même pas des annulations de vols et de retards. Je parle de la sécurité même des compagnies aériennes.
La suspension des vols nigériens n'affecte pas les lignes internationales. Le ministre de l'Aviation exhorte les compagnies aériennes à considérer les effets et les implications de l'arrêt des opérations des vols intérieurs sur les Nigériens et les voyageurs du monde entier qui arrivent au Nigeria pour différentes activités dans les 36 États du pays. Le Nigeria produit 1,4 million de barils de brut par jour, mais il raffine peu. Il dépend presque entièrement des importations de carburant, ce qui rend le marché local vulnérable aux perturbations. La hausse du prix du carburant a provoqué des pannes d'électricité prolongées ces dernières semaines dans le pays. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Gabon, la prise en charge des assurés sociaux est suspendue jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision lourde de conséquences prise par la coalition des syndicats du secteur santé. Elle dénonce l'incapacité de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale de liquider sa dette vis-à-vis des hôpitaux publics. Une dette qui s'élèverait à plusieurs milliards de francs CFA, faute de ristourne sur les prestations offertes par les médecins aux Gabonais sans revenus et en l'absence d'un budget de fonctionnement, tout malade doit désormais payer pour se faire soigner. Le reportage au centre hospitalier universitaire de Libreville de notre correspondant Ismaël Obiang Nze.
Devant les urgences du centre hospitalier universitaire de Libreville, l'évacuation par ambulance d'un homme sauvagement agressé la nuit dernière par des délinquants qui écument Libreville. La victime a été secourue depuis son quartier par des badauds.
Il allait mourir de là à là.
Il a mis les petites machettes là, à la tête.
Mais comment il fait?
Deux points de suture.
Il en a pris en charge.
Le point de suture n'est pas pris en charge par la flamme.
Ouais. Le vêtement mouru de sang. Ils l'ont agressé. Regarde le gros sac qu'ils avaient.
Pour bénéficier d'une prise en charge rapide dans cet hôpital public, il faut bien payer la consultation. Or, Clément, au boulot atteint d'une pneumonie, est démuni. Malgré son statut d'assuré, aucun médecin ne peut le recevoir ce matin.
Donc, j'essaie de voir un médecin. Moi, je n'ai rien comme moyen là. Maintenant, je fais comme. Aidez-lui, comme la CNAM est bloquée au Gabon, il faut maintenant passer maintenant par des petits et comme des trois, c'est-à-dire au lieu peut-être de 7 500, je dois peut-être 4 000.
Or avec l'AMGS, ça ne se paye pas.
Ça ne se paye pas justement. Ce qu'on peut faire après, c'est peut-être des examens, des choses comme ça. Mais là, on exige des consultations.
Comme tant d'autres usagers qui n'ont pas beaucoup de moyens, Clément fait les frais d'une décision prise par la coalition des syndicats du secteur santé. Elle a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des feuilles de soins et bons d'examen de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale dans les structures publiques. Docteur Christiane Mengemasoko, porte-parole de la coalition des syndicats du secteur santé.
Je veux dire, c'est très interpellatif, mais il y a aussi une fermeté parce qu'il faut que nous puissions travailler. Et pour travailler, il faut de l'argent. Et si nous n'avons pas cet argent, l'hôpital va mourir. Et si notre hôpital, qui est prenant du CHL, la vitrine de la médecine au Gabon, on ne peut pas faire une radio parce qu'il n'y a pas de clichés, on ne peut pas faire un examen sanguin parce qu'il n'y a pas de réactif, jusqu'aux antirétroviraux, ça fait 2 mois, comment nous faisons ? C'est le malade, c'est le Gabonais qui souffre. Et c'est ce Gabonais qui souffre qui fait en sorte que nous puissions interpeller aujourd'hui les autorités.
Contacté pour réagir sur cette situation, le ministère gabonais de la Santé n'a pas donné suite à notre démarche. Dans un courrier, la coalition rappelle avoir, le 25 avril dernier, saisi le Premier ministre pour signifier les difficultés des structures de santé à fonctionner correctement et à offrir des soins de qualité aux populations. Ismaël Obianzi, Libreville pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Des organisations de la société civile de l'Afrique centrale plaident pour une approche sous-régionale sur la traçabilité et la circulation des diamants bruts. Ces ONG ont tenu une concertation à Yaoundé sous l'égide du Roloufa, le réseau de lutte contre la faim, une ONG de droit camerounais. Les responsables desdites ONG du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la RDC, dont les activités portent sur la gouvernance des ressources naturelles, veulent mieux faire respecter le processus de Kimberley pour la certification des diamants dans la sous-région. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Les ONG d'Afrique centrale, partie prenante du système de certification des diamants bruts, encore appelé processus de Kimberley, ne parviennent pas encore à coordonner leurs interventions. Et pourtant, 6 pays de la sous-région sont membres du processus de Kimberley. Jaf Bamendjo, coordonnateur adjoint mondial de la coalition de la société civile sur le processus de Kimberley.
Il y a la société civile qui travaille sur le processus de Kimberley au Cameroun, en RDC, en RCA, mais pas encore au Congo et au Gabon. L'Angola fait partie de ce processus de Kimberley. Pour nous, c'était d'amener nos collègues de la Congo et du Gabon pour travailler ensemble pour implémenter bien ce processus et aussi coopérer pour participer quand les gouvernements sont en train aussi de se réunir.
À travers le processus de Kimberley qui entre en vigueur depuis 2003, les États participants se sont engagés à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle à l'exportation, à l'importation et au commerce intérieur des diamants. Depuis juin 2018, le Gabon a créé le centre permanent du processus de Kimberley. Désiré Ladislas Ndembe est le président de l'ONG Mouissi et Environnement, basé à Moulia, dans le
conduire
sud du pays.
Conduire une approche sous-régionale du processus de Kimberley conduirait le Gabon à améliorer la traçabilité, la certification, mais surtout la transparence dans l'exploitation et la commercialisation des diamants qu'il produira. Au vu de la complexité du dossier, évoluer seul, c'est aller à l'échec certain. C'est même pourquoi il est nécessaire d'élargir le processus à toute l'industrie du diamant.
Depuis le déclenchement de la crise en 2013 en République centrafricaine, le Cameroun a été cité comme un point de transit du diamant venant de la RCA par Partenariat Afrique-Canada, une organisation mondiale qui promeut la bonne gouvernance des ressources naturelles dans les zones de conflit. Gaston Ombouli est le coordonnateur du Centre de protection de l'environnement et de défense des intérêts communautaires, basé à Batouri, dans la région de l'Est, frontalière à la République centrafricaine.
Sur le plan technique, pour qu'il y ait des impacts, il faut que ceux qui seront membres de cette coalition de l'Afrique centrale élargissent le champ d'action à d'autres organisations qui seront des organisations locales.
Les ONG de la sous-région d'Afrique centrale ont envisagé d'impliquer la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans leur initiative pour s'assurer que le diamant ne contribue pas à financer les guerres ou bien les conflits. Yaoundé, Emmanuel Jontap, VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de la production. Fatouma Kalala Alimassi a assuré la mise en onde. Eric Manirakiza était avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, voafrique.com, c'est votre site internet. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute.